Et c'est vrai que ce matin, plus particulièrement pour ce dernier moment où on va aborder la fin de cette lettre de Tite, de cette lettre à Tite, j'aimerais simplement prendre le temps encore de pouvoir lire la parole de Dieu et de pouvoir ensuite prier. Je vous invite à suivre le texte avec moi. Tite chapitre 3, à partir du verset 1. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifiques, conciliants, pleins de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui croient, ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi, après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Alors je reviens sur le défi que je vous avais proposé au début de ce week-end. Ce défi qui consistait à trouver les expressions qui sont répétées plusieurs fois dans l'épître à Tite. Alors on va faire un peu la correction maintenant. Quelles sont les expressions que vous avez repérées qui sont souvent répétées dans cet épître ? Je vous écoute. J'ai pas entendu. Quelqu'un qui a dit quelque chose ?
Dieu notre Sauveur.
Dieu notre Sauveur. Ou Jésus-Christ notre Sauveur. C'est répété plusieurs fois. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre ? Il y a sans doute quelque chose qui ne vous a pas échappé aussi à travers le texte que je viens de lire.
La foi.
La grâce, effectivement, est mentionnée plusieurs fois aussi. Les belles œuvres, les bonnes œuvres. Vous avez quand même remarqué que c'était souvent répété. Quoi d'autre encore ?
La vie éternelle.
Oui, la vie éternelle, couplée avec l'idée de l'espérance. L'espérance qui est en fait mentionnée à chaque chapitre. Chapitre 1, chapitre 2, et là ici, de nouveau, l'espérance. J'avais noté également le fait d'être réfléchi. On en a beaucoup parlé hier. Tout croyant doit être réfléchi, c'est répété plusieurs fois. L'idée d'être irréprochable, c'est aussi repris quelques fois. Et puis, on peut mentionner encore la saine doctrine. Donc je répète un petit peu tous ces termes qui, répétés, nous montrent qu'il y a une insistance là-dessus. Les bonnes œuvres, l'espérance, Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, le fait d'être sensé, d'être réfléchi, le fait d'être irréprochable, la saine doctrine. Je ne sais pas si vous reliez tous ces termes, à quoi ça vous fait penser. Mais là se trouve le message de cette lettre. Nous avons vu hier comment les chrétiens devaient se comporter selon la saine doctrine. Et je ne vais pas de nouveau répéter cela, je pense que je l'ai dit suffisamment hier. En particulier au sein de leur foyer ou au sein de l'église. Nous avons vu que nos œuvres dans cette sphère privée, à la maison ou à l'église, avaient aussi une répercussion sur notre témoignage chrétien. Cela disait quelque chose de l'évangile auquel on croit. Et à présent, au début du chapitre 3, il est question de la sphère publique, des rapports que les chrétiens peuvent entretenir avec ceux du dehors, avec les personnes que nous côtoyons dans la société, notamment les autorités. Comment les chrétiens doivent-ils se comporter ? Et pour ce matin, je me limiterai juste aux versets 1 à 8, qui comportent justement de nouveau la structure que... D'abord, ça commence par des instructions. On peut l'afficher, j'ai mis quelques couleurs. D'abord, ça commence par des instructions données, adressées à l'Église, versets 1 et 2. Et ensuite, Paul nous donne la raison. Pourquoi on doit se comporter de cette manière-là ? Et donc, il évoque la doctrine selon laquelle les chrétiens doivent agir de cette manière-là, versets 3 à 8. Donc, c'est structuré comme dans le chapitre 2. D'abord, des instructions, et ensuite, pourquoi on doit se comporter de cette manière-là. D'abord, voyons comment, effectivement, les chrétiens doivent aborder leur rapport, non seulement aux autorités, mais en fait, plus généralement, à tous les hommes. Et ça, c'est les versets 1 et 2. Vous vous souvenez, peut-être encore, du climat qui régnait dans les rues de plusieurs villes françaises au début de cet été. Les émeutes, les pillages... Les voitures brûlées, le désordre, en fait. Et à ma connaissance, personne d'entre nous, dans cette salle, n'a participé à ce chaos. Et c'est tant mieux. Comment aurions-nous expliqué, en tant que chrétiens, en tant que peuple qui appartient à Dieu, notre insoumission aux forces de l'ordre, aux autorités de la ville ? Et parmi les paroles que Tite doit adresser à l'Église, il y a celles qui concernent les chrétiens en tant que citoyens. À l'époque, il n'était pas rare que certaines personnes tentaient de s'insurger contre le pouvoir en place. Et si c'était le pouvoir romain, cela finissait très souvent en bain de sang. Lorsque Paul écrit ses lettres, en tout cas dans certaines de ses lettres, il donne toujours comme instruction aux chrétiens de se soumettre aux autorités. Il semble d'ailleurs, concernant les Crétois, qu'un historien grec de l'époque, de l'Antiquité, qui s'appelait Polybe, disait que les Crétois se mêlaient constamment aux insurrections, aux meurtres, aux guerres. Ils avaient le sang chaud, comme on dit. Et peut-être que ce que Paul est en train de dire ici aux chrétiens de Crète, c'est justement au contraire. Ne soyez pas dans cette ambiance de vouloir vous insurger. Soumettez-vous aux autorités. Ne suivez pas votre ADN, peut-être naturel, de vouloir vous révolter. Au contraire, soumettez-vous aux autorités. Pour revenir aux émeutes, imaginez juste un instant. Un de ces jeunes qui se mêle à la foule des casseurs, qui participe au désordre qui règne dans la ville, qui dégrade des bâtiments publics, qui s'en prend physiquement avec d'autres aux policiers. Maintenant, imaginez que ce même jeune découvre l'Évangile, qu'il croit en Jésus-Christ. Quel comportement va-t-il avoir désormais avec les autorités ? Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne. Les chrétiens doivent être prêts pour toute œuvre bonne. Hier, on a eu toute une discussion sur ce que signifiaient les bonnes œuvres. Paul répète encore une fois, il faut que les chrétiens soient prêts pour toute œuvre bonne. Est-ce que c'est étonnant ? Non, bien sûr que non. C'est ce que le Seigneur enseigne à celles et ceux qui le suivent. Et Paul le développe notamment aussi dans une autre lettre adressée aux chrétiens de Rome, concernant justement ce rapport aux autorités. On connaît ce texte, je le relis. Romains chapitre 13, versets 1 à 5. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Vous remarquez que même dans ce passage-là, Paul insiste sur le fait « fais le bien, fais de bonnes œuvres, sois prêt pour toute œuvre bonne ». Et cela fait donc une différence d'être chrétien, chrétienne dans la société. Et notre réputation, qui a forcément une réputation sur l'Évangile, qui a aussi une réputation sur, une conséquence sur la réputation de Dieu, notre réputation devrait être celle de personnes prêtes à toute œuvre bonne, prêtes pour toute œuvre bonne, disposées à faire le bien, à coopérer avec les autorités pour que l'ordre soit maintenu. Par exemple, des citoyens modèles, des citoyens qui obtempèrent. Parfois, dans l'actualité, nous entendons parler de faits divers concernant des personnes qui refusent d'obtempérer. Mais concernant les chrétiens, on attendrait une autre attitude, celle de se soumettre aux autorités. Comment l'autorité de ta ville, là où tu vis, sait-elle que tu es prête pour toute œuvre bonne ? Quel engagement peux-tu prendre en tant que citoyen là où tu vis, là où tu habites ? Si le fait d'être chrétien fait une différence dans la société, où est cette différence ? Une autre question pour nous en tant qu'Église. Comment, en tant qu'Église qui se rassemble à Saint-Maur, pouvons-nous indiquer aux autorités de cette ville que nous sommes prêts pour toute œuvre bonne ? Vous voyez un petit peu les applications ou les implications de cela. Se soumettre aux autorités, ce n'est pas simplement obéir et être juste un bon citoyen. C'est aussi, sans doute aussi, ça nous amène à nous engager d'une manière ou d'une autre. Et comment, par notre témoignage, nous pouvons montrer effectivement que oui, être chrétien, ça fait une différence dans la société. Les œuvres bonnes, comme nous l'avons vu hier, caractérisent le peuple de Dieu. C'est notre marque de fabrique, si je puis dire. Si on parle d'œuvres bonnes, ce sont les chrétiens qui font les œuvres bonnes. Sommes-nous alors, pour reprendre la question de ce week-end, sommes-nous alors un peuple zélé dans notre société ? Paul poursuit en parlant des qualités à développer, à démontrer dans notre rapport à tous les hommes. Rappelle-leur de ne calomnier personne, verset 2, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Les chrétiens devraient être connus comme des artisans de paix, comme des personnes qui ne disent pas du mal des autres, et encore moins par des calomnies. Et vous savez, on est dans une société où il est facile de lancer une rumeur sur quelqu'un. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou juste en discutant. Pour détruire la réputation d'une personnalité publique, nous allons faire des révélations qui l'accusent de tel crime ou de tel abus. C'est devenu facile de mettre quelqu'un sur le banc des accusés en le pointant du doigt. Et parfois, malheureusement, c'est vrai, les faits sont avérés. Mais parfois, c'est juste un tissu de mensonge. Et dans ce cas, nous serions bien coupables d'y participer, n'est-ce pas ? Même sans aller jusque-là, lorsque certains camarades de classe, ou lorsque certains collègues, ou des amis se rassemblent et commencent à calomnier une autre personne, comment, en tant que chrétiens, réagissons-nous ? Là aussi, je crois que nous pouvons nous démarquer. Et cela nécessite de savoir se maîtriser, de savoir maîtriser sa langue. Comme notre Seigneur Jésus, qui est doux et humble de cœur, nous sommes appelés à être pleins de douceur envers tous les hommes, sans exception. Envers tous les hommes, sans exception. Plein de douceur. Est-ce qu'on peut dire cela de toi? Là où tu travailles, ou à l'école, ou même à la maison, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es une personne qui fait preuve de douceur? Cette douceur n'est pas innée, pas plus que la maîtrise de soi. Nous retrouvons en fait ces vertus dans le fruit que produit le Saint-Esprit. Oui, c'est parce que l'Esprit du Seigneur est en nous que nous pouvons être doux, que nous pouvons commencer à ressembler à Christ. Sommes-nous des personnes pleines de douceur envers tous les hommes? Ou est-ce que parfois nous faisons preuve de dureté? Nous manquons de compassion. Nous sommes plutôt orgueilleux, nous manquons d'humilité, nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres d'une manière ou d'une autre. Savons-nous faire preuve de douceur envers tous les hommes, sans exception? Le contraste est d'autant plus fort que d'après l'apôtre Paul, nous n'avons pas toujours été ainsi. Nous étions même tout le contraire de ce qu'il est en train de recommander, détestables et détestant les autres. Pourquoi Tite doit-il rappeler aux chrétiens de Crète de se soumettre aux autorités? Pourquoi leur rappelle-t-il d'être toujours prêts pour toute œuvre bonne, de ne pas être des calomniateurs, d'être conciliants et pleins de douceur à l'égard de tous? Pourquoi Tite doit-il rappeler cela? La réponse est dans les versets qui suivent. Je lis le verset 3. « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. » Est-ce que nous nous reconnaissons dans ce portrait? Est-ce que c'était nous, ça, avant? Est-ce que nous nous reconnaissons dans ce portrait que Paul dresse concernant ce que nous étions autrefois? Et si vous reconnaissez le style de Paul, de l'apôtre Paul, il rappelle dans certaines de ses lettres aux chrétiens leur passé, ce qu'ils étaient avant. Il n'hésite pas à dire « voilà ce que vous étiez avant ». En ce qui vous concerne, je ne vous connaissais pas forcément avant que vous vous tourniez vers Christ. Mais si j'en crois le témoignage qu'en rend l'apôtre Paul, ce qu'il dit au verset 4 résume ce que vous étiez avant de devenir disciple de Christ. C'était aussi ce que j'étais. Une des raisons qui m'amène à le penser, c'est parce que l'apôtre Paul dit « nous ». Il ne parle pas seulement des Crétois, il ne dit pas « vous, vous étiez comme ça ». Il parle aussi de Tite et il parle aussi de lui-même. Permettez-moi de relire encore ce verset. « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. » Ce « nous » nous englobe aussi. Avant de connaître le Seigneur, nous étions stupides et rebelles. Nous étions méchants à l'égard des autres, à la fois dans nos pensées, au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre rancœur, mais aussi dans nos paroles et dans nos actes. Nous étions méchants. Par égoïsme, nous étions capables de faire du mal aux autres pour préserver nos intérêts. Et malheureusement, il nous arrive encore de pécher de cette manière. Autrefois, nous étions esclaves de nos passions. Nous voulions seulement faire ce qui nous plaisait. Certains d'entre nous ont peut-être connu des excès dans l'alcool, dans la cigarette ou même peut-être dans la drogue, parce que nous étions esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Pour d'autres, l'excès se trouvait peut-être dans les jeux vidéo ou dans les jeux d'argent. Et vous pouvez sans doute énumérer bien d'autres choses de votre passé qui rejoignent ce que Paul dit du passé des chrétiens. Et l'heureuse coïncidence de ce matin, c'est qu'un frère me partageait justement son témoignage à ce sujet. Comment il était avant de connaître le Seigneur ? Il était bien loin des standards de Dieu, me confiait-il. Et en fait, ça correspond à la description qui est là. Voilà ce que nous étions. Si vous ne reconnaissez pas qu'autrefois vous étiez odieux, vous êtes en train de contredire le témoignage de l'Écriture à votre égard. Je sais que ce n'est pas toujours facile de pouvoir se dire juste « Avant, j'étais odieux. Avant, j'étais méchant. Avant, j'étais esclave de mes passions. » Pourtant, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, pourtant, la bonne nouvelle de l'Évangile à laquelle nous avons cru nous oriente vers la bonté de Dieu. Nous étions ainsi, mais, verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. » Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Alors j'aimerais dire, n'oublions jamais notre passé d'hommes et de femmes stupides et rebelles, méchants et odieux. N'oublions jamais ce que nous étions avant. Stupides et rebelles. N'oublions jamais que malgré cela, malgré notre stupidité et notre méchanceté, alors que nous étions les plus détestables, Dieu, notre Sauveur, s'est montré bon. Il s'est montré bon, il s'est montré plein d'amour à notre égard. N'oublions jamais que Dieu nous a sauvés en raison de sa propre compassion, alors qu'il nous voyait misérables. Nous n'avons rien fait de bon pour que Dieu se penche sur nous et aille nous sauver. Rien. Nous étions stupides et rebelles. Et que signifie être sauvé, si ce n'est que Dieu ne nous a pas laissés dans cet état de méchanceté qui nous caractérisait. Au moment où nous avons dit oui au Seigneur, au moment où nous avons placé notre foi en lui, après avoir compris le sacrifice efficace de Jésus pour le pardon de nos péchés, nous étions alors en train de naître de nouveau, de naître à une nouvelle vie. Jésus en parle notamment avec Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il parle de cette nouvelle naissance. Et d'ailleurs, Nicodème ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut retourner dans le ventre de sa mère pour renaître ? Non, il parle de cette nouvelle naissance. Et c'est ce qui s'est produit au moment où, simplement, vous avez fait ce pas de foi d'accepter entièrement ce que Dieu avait prévu pour vous, pour pouvoir vous sauver. À savoir, de compter uniquement sur l'œuvre de Christ. Cette nouvelle naissance que nous n'avons peut-être pas vécue consciemment, parce que certains d'entre nous, on ne se souvient pas quand est-ce qu'on s'est converti. En tout cas, c'est mon cas. Je ne pourrais pas vous donner une date précise. Pourtant, je suis convaincu, j'espère que vous pourrez le confirmer en voyant ma vie, qu'il y a eu une nouvelle naissance. Paul compare d'ailleurs cette nouvelle naissance à un bain. Le bain de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est un nouveau départ où Dieu nous purifie, où Dieu nous pardonne, où Dieu nous accepte, uniquement grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors que nous étions stupides et rebelles. Cette nouvelle naissance, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a été donnée, qui nous transforme. Le Saint-Esprit qui fait de nous une nouvelle créature. Et vous remarquez ce que Paul dit ici, nous l'avons reçu avec abondance. C'est une expression pour dire que Dieu ne nous a pas donné un peu ou une partie du Saint-Esprit. Nous l'avons reçu avec abondance. L'Esprit qui nous a été donné, c'est l'Esprit tout entier. Il n'y a pas dans l'Église certains chrétiens qui ont plus l'Esprit que d'autres. L'Esprit est une personne et tous les chrétiens l'ont reçu avec abondance. De telle sorte que, voilà l'implication derrière, de telle sorte que quel que soit ton cas, quels que soient tes problèmes, quel que soit ce que tu as à régler dans ta vie, peut-être les mauvaises habitudes dont tu dois te débarrasser, quel que soit ton cas, Dieu a le pouvoir de te changer complètement. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit avec abondance. Si tu l'as reçu avec abondance, il peut te changer complètement. Quel que soit là d'où tu es parti, ou là où tu en es en ce moment. Peut-être que tu estimes que tu as encore tellement de choses à travailler en toi, à changer. Mais sache qu'en recevant l'Esprit avec abondance, tu peux être assuré que Dieu s'occupe de ta transformation. Alors ça prend du temps, effectivement. C'est pas du jour au lendemain. Mais Dieu s'occupe de ta transformation. Et ça nous donne un immense espoir sur nous-mêmes. Tout n'est pas perdu pour moi. Et pourtant, je connais bien mes défauts. Mais j'ai reçu l'Esprit de Dieu avec abondance. Verset 7, « Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Dans sa grâce, Dieu, qui savait combien nous étions stupides et rebelles, coupables devant lui, dans sa grâce, Dieu nous a déclarés justes. Christ, notre Sauveur, a payé de sa vie pour rendre possible le fait que Dieu puisse nous déclarer justes, nous ôter cette culpabilité. Hier, lorsque nous chantions le chant « La famille de Dieu », alors qu'on était en cercle, nous disions que nous faisions partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Vous vous souvenez de cette partie du chant, les héritiers du Père. Non seulement nous sommes déclarés justes, mais nous recevons aussi un héritage. Et je sais que certains hier ont parlé de récompense dans le ciel, mais retenez cette réalité. Mais retenez cette réalité qui est la nôtre. Nous sommes devenus ses héritiers. Si vous avez placé votre foi en Christ, si effectivement vous avez connu ce bain de la nouvelle naissance, alors vous êtes héritier de Dieu. Vous avez reçu un héritage. C'est à nous que le royaume de Dieu est réservé. C'est là que nous aurons une place auprès de Dieu, pour l'éternité. Et ça, c'est notre espérance. Et je crois combien on a besoin simplement de constamment revenir à cette vérité. Pourtant, nous étions stupides et rebelles. Mais il fait de nous ses héritiers. Pourquoi Tite doit-il rappeler aux chrétiens de se soumettre aux autorités? Pourquoi doit-il leur rappeler d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne pas être des calomniateurs, mais d'être des gens pacifiques, conciliants, pleins de douceur à l'égard de tous? La réponse, parce qu'autrefois nous étions stupides et rebelles, et que Dieu a eu compassion de nous et nous a sauvés. Il nous a fait naître de nouveau. Il a déversé sur nous son esprit avec abondance pour mener cette vie nouvelle. Il a fait de nous ses héritiers, des héritiers qui attendent la vie éternelle. C'est donc en comprenant cet évangile qu'on est en train de dépeindre. C'est en comprenant cet évangile que nous commençons à faire un pas vers les œuvres bonnes. Que nous retrouvons notre zèle pour les œuvres bonnes. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit au verset 8, cette parole est certaine. Tout ce qu'il vient de dire, tout ce que j'ai pris le temps aussi de réexpliquer. Cette parole est certaine. Et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. afin que ceux qui ont cru en Dieu, et je suis convaincu qu'il y en a ici dans cette salle, ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Quelles sont les belles œuvres que tu dois pratiquer cette semaine devant toi, lorsque tu vas rentrer de ce week-end? C'est maintenant qu'il faut se préparer en se posant cette question. Quelles sont les belles œuvres, les bonnes œuvres que tu seras amené à pratiquer durant cette semaine? Quel bien Dieu te demande-t-il de faire quand tu penses à ton entourage? Quand tu penses à l'Église? Quel bien Dieu te demande de faire? Et cela, je ne peux pas y répondre à votre place. Chacun dans votre situation, vous savez très exactement là où Dieu vous interpelle. Mais n'oublie pas, et je me permets encore de le répéter, même si ce n'est pas toujours agréable de l'entendre, autrefois tu étais stupide et rebelle. Je l'étais aussi. Mais Dieu t'a sauvé de ton état de rébellion pour que tu accomplisses désormais de bonnes œuvres qui lui rendent gloire. Est-ce que tu comprends ce processus de transformation que Dieu est en train d'opérer? Avant, nous étions effectivement méchants. Mais Dieu t'a sauvé pour que désormais, ce qui puisse ressortir de ta vie, ça soit de belles œuvres. J'aimerais simplement vous laisser un petit temps de réflexion par rapport à ces dernières questions que je viens de poser. Quelles sont les belles œuvres que tu dois pratiquer cette semaine, lorsque tu vas rentrer de ce week-end? Quel bien Dieu te demande-t-il de faire quand tu penses à ton entourage, quand tu penses aussi aux frères et sœurs? Prions ensemble. Notre Père, nous voulons encore te rendre grâce pour la parole que nous avons entendue ce matin. Te remercier parce que tu as inspiré l'apôtre Paul pour écrire ces mots. Et nous sommes convaincus que, effectivement, en étant instruits de tout ce que tu nous dis dans ce texte, autrefois, nous étions comme ce que Paul décrit. Nous étions rebelles, rebelles à toi. Nous étions tellement méchants, odieux les uns envers les autres. Oui, et pourtant, malgré ce portrait si négatif, malgré ce que nous étions, tu es venu nous chercher. Nous avons chanté cela aussi tout à l'heure. Nous avons chanté le fait que, oui, tu nous as témoigné ta grâce. Tu as eu compassion de nous, afin de nous sortir de cet état de rébellion, de nous sortir de cet état de méchanceté. Pour que nous puissions mener une nouvelle vie, une vie qui te glorifie, une vie qui s'exprime par des œuvres bonnes. Et nous avons sans doute, chacun à notre échelle, là où tu nous as placés, des œuvres bonnes à accomplir durant cette semaine. Permets-nous, Seigneur, de toujours revenir à l'Évangile, pour trouver une source de motivation, afin d'être zélé pour de bonnes œuvres, comme tu l'attends de nous en tant que peuple, un peuple qui t'appartient, un peuple qui a été racheté. Nous te bénissons, Seigneur, encore pour toute cette lettre adressée à Tite et que nous avons conservée jusqu'à aujourd'hui. Merci parce que nous avons encore besoin d'être enseignés par toi. Nous avons encore besoin que la grâce nous éduque pour pouvoir faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Accorde-nous, s'il te plaît, de pouvoir faire ta volonté dans chaque aspect de notre vie. Et cela, dès aujourd'hui et tout au long des semaines à venir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que ton esprit que tu nous as donné avec abondance puisse poursuivre son œuvre de transformation en nous. Puisse poursuivre ce changement dont nous percevons déjà un peu les fruits. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas. Nous voulons te remercier parce que ce que tu as commencé en nous, Seigneur, nous sommes convaincus que tu l'achèveras au jour de Christ. Et c'est avec une telle espérance, Seigneur, que nous nous tournons vers toi et que nous envisageons cette nouvelle semaine qui est devant nous aussi. Au nom de Jésus. Amen.